spéciale élection.
Bonsoir et bienvenue à l'auberge du Chasseur à Fenin pour ce premier débat en vue de l'élection au Conseil d'État. Les citoyens du Châtelois ont jusqu'au 14 avril pour dessiner leur nouveau gouvernement en choisissant parmi 16 candidats. Ce soir, RTN accueille la socialiste Monica Merefti, bonsoir. Le libéral radical Alain Ribaud, bonsoir.
Mais bonsoir.
Le PDC Raymond Trot, bonsoir.
Bonsoir madame.
Et le candidat de solidarité François Conrad, bonsoir.
Bonsoir.
Si vous étiez élu au Conseil d'État, quelle serait la première mesure ou le premier projet que vous tenteriez de réaliser? Donnez-moi une seule mesure la plus importante à vos yeux, Alain Ribaud.
La toute première, développer l'unité du Conseil d'État pour recréer la confiance qui doit absolument inspirer. De là, tout découlera. Des finances saines, bien sûr, mais ensuite, tous les autres projets.
François Conrad.
Alors, augmenter l'appui aux jeunes qui recherchent des emplois et des formations.
Monica Merefti.
Le développement massif des structures d'accueil et étendre leurs heures d'ouverture.
Raymond Traube.
Eh bien, je ne vais pas donner les plus importantes, ça je les garde comme joker pour tout à l'heure, mais un signal fort que je ferai si je suis élu, c'est une amnistie fiscale pour donner le fouet rapidement au canton pour la réindustrialisation.
Alors, on va parler d'abord santé. La question des hôpitaux divise le canton. Le dossier est enlisé depuis une dizaine d'années. Des missions provisoires pour chaque établissement ont été adoptées par le Grand Conseil. Mais certains libéraux radicaux ont déjà annoncé leur intention de lancer un référendum. Monica Merefti, comment débloquer la situation et faire avancer ce dossier hospitalier?
Les mesures qui ont été adoptées par le Grand Conseil, je les défends. Je défends notamment deux sites de soins aigus. Nous devons rapidement définir ce qu'est un site de soins aigus. Qu'est-ce que nous allons encore faire dans le canton? Qu'est-ce que nous allons pouvoir importer? Parce que nous voulons créer des pôles de compétences. Et surtout, après, décider ce qu'on fera à l'extérieur du canton, notamment ce qui nécessite un plateau technique de haute performance. Ça, il faut le faire en collaboration avec les hôpitaux universitaires.
Raymond Traube, un référendum risque d'être lancé. Comment faire avancer ce dossier qui piétine finalement depuis plusieurs années?
C'est vrai, et c'est la quatrième fois qu'on m'interroge là-dessus pendant ces élections. En fait, la décision du Grand Conseil, le vote du Grand Conseil, je le comprends. J'avais averti le PDC quand j'avais été mandaté pour étudier ce dossier qui n'était pas que structurel et financier, pourtant c'est ça l'essentiel, c'est là les chiffres parlent, mais qu'il était politique. Et c'est ce qu'on a vu cette fois-ci. Cela dit, effectivement, il y aura un référendum. Je pense qu'il passera parce que, justement, les chiffres sont têtus. Toutes les expertises, jusqu'à présent, ont montré qu'il ne pouvait y avoir qu'un hôpital principal et un autre secondaire, et que pour les raisons d'équipement actuel et d'attractivité, il fallait que ce soit sur le bas, en complétant sur le haut, même si Mme Monique Merefti, que les caméras ne voient pas, fait non de la tête, avec les opérations programmables sur le haut et les urgences jour et nuit, pas les soins attentifs, sur le haut. Et cela sera possible malgré ces peurs, effectivement, que nous avons, la réaction compréhensible des proximités pour les montagnes, grâce à quoi? Grâce au Transrun.
Alors, François Conrad, vous aussi, vous faites nom de la tête. Vous n'êtes pas d'accord avec l'idée de faire un site unique dans le bas?
Pas du tout. Je pense premièrement que les tensions que nous connaissons entre le haut et le bas du canton, ça fragilise le canton, autant à l'intérieur qu'à l'extérieur. Et nous devons impérativement trouver des solutions d'équilibre. Donc, c'est aussi des choix politiques, pas uniquement techniques et financiers. Et dans ce sens, la décision du Grand Conseil me paraît assez positive. Donc d'avoir deux sites de soins aigus avec des répartitions des missions entre le haut et le bas du canton.
Alors Alain Ribaud, ce sont notamment quelques libéraux radicaux comme vous qui ont l'intention de lancer ce référendum. Vous ne pensez pas que ça va encore justement retarder l'avancée de ce dossier?
Alors ça pourrait retarder en effet. Maintenant, est-ce que c'est une bonne chose ou pas? Pour moi, il y a toujours trois critères principaux quand il s'agit de réfléchir au système hospitalier. Il y a bien sûr, et c'est le premier, la qualité des soins qui comprend aussi l'accès raisonnablement rapide au système hospitalier. Il y a les coûts dont on parle finalement assez peu, que les coûts soient raisonnables. Ça a aussi des répercussions sur les primes d'assurance maladie et je suis sûr que ça ferait plaisir à tout le monde de les voir un tout petit peu baisser. Et puis il y a le souci du régionalisme. Pour moi, les deux premiers sont tout de même un peu plus importants que le troisième. Le troisième ne doit pas conduire à faire des choses déraisonnables du point de vue des coûts, déraisonnables du point de vue du système global de la santé. Il ne doit pas décourager les bons médecins à rester chez nous parce qu'il y aurait une cohérence insuffisante. Et en particulier, donc, c'est vraiment les deux premiers critères, la qualité des soins et les coûts qui me paraissent les plus importants. Ça ne veut pas dire que le régionalisme ne l'est pas aussi. Ça, c'est l'aspect politique des choses, mais c'est aussi un aspect politique dont il faut admettre qu'il bloque ce canton et pas seulement en matière hospitalière. Il faudra une fois sortir de ce débat.
Mais alors concrètement, Alain Ribaud, comment va faire le futur gouvernement pour faire avancer ce dossier et puis qu'on ait des solutions concrètes finalement?
Alors, le futur gouvernement aura de la peine. Je ne suis pas certain que j'ai envie d'être celui qui devra s'en charger. Bon, il faudra bien qu'il y en ait un et je le ferai cas échéant, en sachant que peut-être dans 4 ans, il faudra trouver une autre profession. concrètement, il y a à viser et le plus vite possible un centre de soins unique. Alors, on dit qu'il est forcément à Neuchâtel. Peut-être que c'est là que c'est le plus raisonnable, mais ce n'est pas une obligation. Sachant qu'un centre de soins unique, ce n'est pas un centre de soins aigu absolu, puisque les soins aigus et de plus en plus iront dans les autres cantons. On doit faire très attention à Neuchâtel, de ne pas oublier que Bienne, Yverdon peuvent aussi développer de bons hôpitaux. Les gens, quand ils ne sont pas malades qu'ils ont besoin de proximité. Quand ils sont malades, ils cherchent l'endroit où ils seront le mieux soignés. Et ça peut être hors frontière.
Monica Merefti, un site unique de soins aigus dans le bas du canton ou un site unique de soins aigus tout court, est-ce que c'est la solution?
Mais c'est peut-être la solution dans 15 ans. Mais en attendant, la population neuchâteloise, elle veut être soignée par des soins de qualité, par des soins à proximité, donc accessibles pour tout le monde. Et évidemment, là, je rejoins aussi ce que Alain Ribaud disait tout à l'heure. C'est vrai que nous devons aussi avoir un souci des finances. Hein. C'est vrai que nous devons porter également ce souci-là, mais ce n'est pas en chargeant l'hôpital neuchâtelois, qui a déjà 350 millions de dettes, avec un site de soins aigus tout de suite maintenant. Et d'ailleurs, si les études doivent être faites, c'est bien parce qu'on sait qu'il n'y a pas une seule vérité dans ce dossier et ce n'est pas en une année qu'on va résoudre le site unique. Donc ça veut dire qu'en attendant, la population doit être soignée, elle doit être soignée par une politique de santé raisonnable, mais aussi une politique de santé réfléchie, ce qu'on n'a pas fait pendant ces 4 ans. On a fait 4 ans de surplace. Nous devons développer notamment les cabinets de groupe. Il manque cruellement de générations, notamment dans le haut de canton. Il manque de pédiatres, il manque de gynécologues. Donc, véritablement, on doit mettre en place une politique volontariste pour vraiment mener une politique de santé dans ce canton digne de ce nom.
Alors, Raymond Traubin, vous l'avez dit, vous êtes pour un site unique de soins aigus dans le bas du canton, mais comment alors, avec ça, assurer finalement une médecine de proximité dans tout le canton, dans toutes les régions?
Oui, bon, d'abord, je ne suis pas tout à fait d'accord, si j'ai bien compris la position de M. Ribaud. Parce que je suis neuchâtelois d'abord, que ce soit du haut ou ici du Val-de-Rue ou du bas, je ne vais pas brader l'hôpital neuchâtelois pour aller à Bienne ou à Yverdon qui sont plus petits que Neuchâtel. Donc là, peut-être qu'il y a une confusion. Je comprends bien que les cas sévères vont aller au CHUV ou à l'INZEL, mais nous avons à être autonomes au point de vue de notre médecine de soins aigus.
Bien sûr, il faut faire très attention justement, c'est exactement ça, il faut justement faire attention que Bienne et Yverdon ne nous volent pas la vedette.
Nous sommes d'accord, alors excusez-moi.
Alors justement Raymond Traube, je reviens à ma question première, hein. Comment assurer quand même une médecine de proximité dans toutes les régions si on concentre tout dans un site unique de soins aigus?
Alors il semble que les initiatives du Val de Travers et d'autres soient tombées. Donc on se concentre maintenant sur la préoccupation pour que la Chaux-de-Fonds puisse rester un centre bien équipé pour la population. Et c'est vrai qu'on peut encore plancher là-dessus. Je l'ai dit tout à l'heure, il y a toutes les opérations programmées type orthopédie. Bien sûr, c'est le contraire de ce qui a été dit récemment dans le dernier plan. Mais c'est des choses qui peuvent être programmées qui ne sont pas aiguës. C'est là où je parle d'aiguës. Et puis, il faut un centre d'accueil pour les soins d'urgence également. J'ai même entendu, ces derniers jours, pas mal de personnes qui revenaient sur la notion de la maternité, d'une maternité à la Chaux-de-Fonds. Ce serait politiquement correct.
Alors, François Conrad, la pénurie de médecins de famille, hein, on la voit dans le canton de Châtel, comment y faire face?
Alors justement, c'est en gardant les hôpitaux de soins aigus en bas et en haut, parce que les médecins de famille sont aussi très liés au fait qu'il y ait des structures hospitalières développées. Et si on veut maintenir des médecins, c'est très important de justement garder ces deux sites de qualité.
Donc développer des cabinets de groupe dans les hôpitaux?
Non, pas nécessairement, mais ça veut dire qu'il y a une dynamique, si un hôpital est présent avec des spécialistes et des généralistes, il y a une dynamique qui fait que les médecins restent bien plus volontiers proches de l'hôpital.
Alors François Conrad, on parle aussi beaucoup de l'hôpital de la Providence, qui est maintenant géré par Genollier. Alors à votre avis, est-ce qu'il faut collaborer avec l'hôpital de la Providence ou plutôt construire la santé sans l'hôpital de la Providence dans le canton de Neuchâtel?
Alors pour nous, à Solidarité, pour moi, la seule collaboration possible aurait été de dire on vous donne des missions et en contrepartie, vous appliquez la convention collective de travail. Et puis non pas comme on l'a fait en disant, eh bien, pendant 4 ans, on vous laisse libre, alors même que dans le Grand Conseil, on a vu des médecins se positionner en disant, une année suffit pour transférer des missions. Donc très clairement, je pense que là, on suit le mauvais chemin.
Alain Ribaud, pour vous, il faut collaborer avec la Providence à l'avenir ?
Avec la Providence, avec d'autres, il faut être pragmatique. Et si on peut employer une partie de ressources différemment que de les recréer entièrement au sein de l'hôpital Neuchâtelois, on ne peut pas simplement les exclure. Et donc je pense qu'on peut très bien travailler. Ce n'est pas le diable, Genollier.
Monica Marefti.
Mais pour moi, clairement, il y a aussi de la place pour Genollier dans notre canton. Je crois qu'ils ont un public, notamment pour tout ce qui est ambulatoire, hein, tous les soins qui relèvent du TARMED, qui sont payés d'une manière différente que les interventions hospitalières. Mais ce qui est important, c'est que quand on dit mission publique, on dit CCT. Là, vraiment, je ne déroge pas à ça. Et si on confie une mission publique à Genollier, ils doivent appliquer la CCT. Et sinon, on n'attribue pas des missions publiques à Genollier.
Alain Ribaud, justement, voilà ce partenariat finalement hein, qui persiste avec Genollier, est-ce que ce n'est pas un premier pas vers une privatisation de la santé publique ?
Bon, je ne crois pas que Genollier a des vocations de prendre tout le système de santé neuchâtelois. On a un gros volume, un gros paquet HNE, et je pense que c'est très bien comme ça. Et puis on a des compléments dans des domaines spécifiques par des privés. Ça évite un équipement complet à charge par des investissements du public. Moi, je pense que c'est une bonne chose d'être complémentaire.
Raymond Traube. Oui, vous voulez intervenir sur la Providence ?
Oui, en tout cas sur la Providence, et en prenant une position vraiment différente de celle de Mme Erefti, parce que là, personnellement, je me place en tant que médecin, je ne me place pas sur le plan syndical. Bien sûr, il y a une question syndicale, mais ce n'est pas ça la question qui m'est posée ce soir. Alors oui, on a laissé passer de quelques mois seulement maintenant un nouveau trans, hein, un nouveau partenariat public-privé, comme vous l'avez dit. Mais il reste possible parce que les tableaux, les tables opératoires, les plateaux opératoires, excusez-moi, existent déjà entre la Providence et HNE. Mais ils existent aussi, et M. Ribaud l'a peut-être sous-entendu tout à l'heure, entre l'hôpital de la Chaux-de-Fonds et Montbrillant, qui a en tout cas plus de 7 nouvelles salles d'opération. C'est important. Ça, c'est le partenariat public-privé.
Mais ce que vous oubliez, M. Traube, c'est que Montbrillant, ils n'ont pas de tâches publiques à effectuer, donc ils n'appliquent pas la CCT, ce que je trouve tout à fait normal, c'est de la concurrence déloyale. Si on donne des missions publiques à un hôpital privé, et si on donne des missions publiques à un hôpital public, ils doivent appliquer les mêmes politiques salariales, sinon c'est de la concurrence déloyale.
Je me fais fort, quand je serai ministre de la Santé, de parvenir à ce que le Montbrillant entre dans un partenariat privé-public.
Alors, on va peut-être parler de la question aussi de l'assurance maladie. Hein. C'est vrai que ça coûte aussi très cher au canton, hein, le fait que les primes augmentent chaque année en termes de subsides. Alain Ribaud, comment faire finalement pour sortir un peu de cette spirale infernale ? Chaque année, les primes augmentent et ça coûte plus cher au canton de Neuchâtel.
Bon, ça, c'est la conséquence du débat qu'on a eu tout à l'heure. Enfin, si les hôpitaux coûtent moins cher, bien sûr, si les habitudes aussi des gens en termes de médicaments devaient être un peu moins importantes, ça fait aussi partie. Mais enfin, surtout, c'est l'hospitalier qui coûte le plus cher. Si on avait un système un peu plus raisonnable, eh bien, on aurait aussi des primes plus raisonnables. Les Neuchâtelois ne peuvent que s'en prendre à eux-mêmes s'ils payent autant, ou plutôt à leurs autorités, puisque c'est quand même elles qui doivent essayer de guider sur le bon chemin. On doit penser qu'on est 180 000 habitants dans ce canton à peine. C'est un quartier de Paris et qu'on peut pas se prendre pour ceux qui sont comme un vrai état complet, une nation qui devrait résoudre son problème d'hôpitaux. Je crois qu'il faut simplifier un tout petit peu les choses.
François Conrad, les Neuchâtelois doivent s'en prendre qu'à eux-mêmes s'ils payent des primes élevées, comme l'a dit François Ribaud. Alain Ribaud.
Écoutez, moi je pense qu'il y a un élément qui est intéressant, c'est de voir que par rapport à ce qui a été fait, l'usage qui a été fait de réserves qui ont été utilisées dans le cadre d'autres cantons, et qui correspondait à des primes qui ont été versées par les assurés neuchâtelois, je pense qu'il y a des choses à revoir au niveau du système, très certainement, parce que le fait qu'il y ait eu cette possibilité d'utiliser des réserves qu'on ne va pas rendre aux gens, c'est quelque chose qui n'est pas tolérable.
Monica Mereffti, le Parti Socialiste, hein, lui, milite pour une caisse plutôt fédérale et basée sur le revenu. Vous pensez que ça, c'est la solution pour justement freiner ces coûts de la santé ?
Alors, pour moi, c'est certainement une partie de la solution, mais je crois que la question de fond qu'on doit se poser en tant qu'être humain, c'est jusqu'où on va aller dans les investigations au niveau de notre santé, de la nôtre de santé, mais aussi dans les investigations médicales. Je pense qu'on doit se positionner aussi par rapport à ça, jusqu'où on va soigner les gens, jusqu'à quel degré on va multiplier les examens. Je pense que c'est vraiment une prise de conscience finalement aussi de l'acte médical et de son coût.
Alors comment le gouvernement, le futur gouvernement neuchâtelois peut justement essayer d'améliorer ça, vu que vous dites c'est une prise de conscience, c'est très général concrètement?
Alors concrètement pour moi, il faut maintenant investir dans des programmes de prévention. Je pense qu'en tout premier, c'est vraiment un programme de prévention qu'on doit lancer. Ça commence dans les crèches, ça commence à l'école, ça commence tout du long de finalement de la vie. Hein. Je crois qu'il y a véritablement une politique de prévention qui a manqué ces 8-10 dernières années et maintenant on en paye les frais. On le voit très concrètement, on vient d'avoir tout le débat sur le SIDA, hein, si vous avez un peu suivi dernièrement dans les médias, ben on a nettement relâché tous les programmes de prévention et le SIDA est en augmentation de nouveau. Donc très clairement, là on voit vraiment l'importance d'un programme de prévention que nous devons mettre en place dans notre canton.
Raymond Traube, réduire les coûts de la santé en utilisant la prévention, ça c'est une arme que le PDC défend ?
Ça en tout cas, mais ça ne va pas les réduire. En tout cas pas avant une vingtaine d'années. Mais la première question que vous posez, c'est pas une raison pour ne pas investir, mais il faudrait que je développe plus longuement. Par contre, la question que vous posez n'est pas une question qui va nous faire élire. Et sur cette question, j'ai une réponse qui, au fond, est assez proche de Monique Mereffti. Je suis, en tant que psychiatre, vraiment versé sur le côté social, et je suis pas d'accord pour une médecine à deux vitesses. Donc c'est clair qu'il est important qu'il y ait... Enfin, moi, disons plutôt que je penche vers une caisse unique. C'est déjà quelque chose qui va nettement diminuer les différences entre les cantons. Et puis, deuxièmement, c'est vrai qu'il y a, et ça aussi, plusieurs d'entre nous, monsieur Ribaud, mais aussi madame Monique Mereffti, on a appelé la responsabilité individuelle. C'est vrai, moi-même, en tant qu'individu, j'ai eu un scan il n'y a pas longtemps. Je crois même que ça s'appelle IRM. Hein. Eh bien, était-ce vraiment nécessaire? Alors c'est vrai que là, maintenant, Neuchâtel a mis en place un réseau qui n'est pas suffisamment complet encore, il n'y a pas tout le monde dedans, mais qui permet d'éviter les doublons, et là on va dans la bonne direction.
Alain Ribaud, une caisse unique?
Non, je ne pense pas que la caisse unique soit la solution. Des caisses séparées peuvent aussi, et malgré un grand nombre de cautèles, avoir des idées et faire preuve d'un peu de concurrence. Le problème des coûts de la santé, ils sont en augmentation. Pourquoi ? Parce que l'âge augmente dans la population et qu'on maintient de plus en plus tard des gens en bonne santé. Bien sûr que ça a un coût. Et puis, les progrès médicaux et les prestations qui sont offertes sont aussi toujours plus coûteuses. Et à l'évidence, c'est ce phénomène-là, on ne l'enrayera pas. Alors la prévention peut être une réponse, mais le sentiment aussi, quand on est soi-même victime de quelque chose, de vouloir le mieux, de vouloir un autre examen, parce que tout d'un coup on a vu qu'on a l'impression que le premier médecin n'a pas donné exactement la réponse qu'on voulait, on va encore en voir un deuxième, probablement qu'il faudrait d'ailleurs limiter hein, les examens intempestifs. Eh bien ça, au fond, chacun, il souhaite le mieux, c'est assez humain, assez naturel.
Raymond Traube.
Alors que, simplement rajouter que je suis toujours étonné de le voir, et je prêche pas pour ma paroisse, parce que je suis psychiatre, la qualité de nos généralistes, et là le souci c'est qu'ils soient, comme disait madame Mereffti, qu'il y en ait des nouveaux qui viennent, parce que notre moyenne est à 57 ans, mais ce sont tous des très très bons médecins, donc on n'a pas besoin d'en changer.
Alors on va parler peut-être maintenant économie. Quelles mesures prendre pour attirer davantage de nouvelles entreprises dans le canton de Neuchâtel, François Conrad?
Alors c'est un peu le paradoxe, puisque nous étions clairement contre la fiscalité des personnes morales, la réduction telle qu'elle a été décidée par le Grand Conseil, en pensant que le grand risque, c'est que si plus tard, des cantons voisins baissent encore, ce qu'on aurait obtenu, on puisse le reperdre. Je pense qu'on a pas mal de choses aussi à offrir en termes d'infrastructures, en termes de soutien pour l'installation d'entreprises. Il y a aussi pas mal, on voit aussi à Boudry, ça va se développer pas mal par rapport à des questions de terrain. Donc il ne faut pas voir uniquement la question de la fiscalité qui peut être vraiment un piège à terme.
Alors, pas la question de la fiscalité, mais concrètement, qu'est-ce qu'on pourrait proposer aux entreprises pour les attirer dans le canton de Neuchâtel? Quelles mesures concrètes?
Alors des mesures qui consistent, en particulier par rapport à l'administratif, donc d'avoir vraiment un staff au niveau cantonal qui peut appuyer les gens pour toutes les démarches administratives, pour aider à entreprendre à faire le nécessaire.
Alain Ribaud.
Oui, alors je comprends que le représentant de Solidarité ne soit pas dans le domaine qu'il préfère. Hein, quand on parle d'attirer les entreprises, il propose, la seule chose qu'il propose, c'est d'augmenter le staff administratif pour essayer de les faire venir. Moi, je crois que la nouvelle fiscalité des personnes morales est un atout extraordinaire et qu'il faut bien sûr se fonder là-dessus, vendre ce produit et permettre d'attirer. On a un grand danger dans notre région, dans notre canton, c'est le risque d'absence de diversification. Dans le haut, c'est l'horlogerie, dans le bas, c'est le tabac. Et on est au fond très en prise avec très peu de choses et on sait que quand quelque chose va mal, c'est toute la branche qui va mal, c'est pas juste une entreprise. Donc on doit vraiment se battre et faire comme si on était en situation aujourd'hui de danger, alors qu'on est dans une situation aujourd'hui de grosse augmentation de nombre d'emplois. Eh bien on doit se battre comme si le danger était là, parce qu'on doit anticiper un problème qui pourrait survenir dans une de nos monocultures.
Alors vous dites diversifier finalement le tissu économique neuchâtelois, mais
alors il y en a un excellent où il faut absolument foncer, c'est le domaine du solaire, pas seulement parce qu'il a la mode, mais parce qu'on devient extrêmement pointu dans notre région avec le CSE dont je suis membre du conseil d'administration et je vois tous les efforts développés à ce sujet-là. Microcity qui se développe avec une chaire consacrée au solaire, un professeur Baïf qui est une sommité mondiale et qui est dans notre région, c'est une chance extraordinaire. Il faut qu'on développe, des entreprises arrivent, Pazan et d'autres qui sont maintenant autour du CSEM, et là on doit vraiment développer, c'est une grande chance pour la région.
Monica Merefti, comment attirer des nouvelles entreprises? Vous êtes d'accord avec Alain Ribaud?
Ça m'inquiète, je suis vraiment d'accord sur tous les points qu'il a développés. Donc, probablement qu'on ferait une bonne paire au gouvernement. Mais plus précisément, je crois qu'il n'y a peut-être pas seulement le solaire qu'on doit développer, mais j'étendrai un tout petit peu. Je dirais qu'en général, les nouvelles technologies renouvelables doivent être développées dans notre canton. Nous avons tous les atouts en main. Hein. Je crois que vraiment, Alain Ribaud l'a dit, avec le CSEM, avec la chaire à l'université, on a des formations HES très performantes. Donc vraiment, je crois qu'on a tout dans notre canton et quelque part, des fois, on voit plus qu'on a, tellement on a de choses. Et je crois que vraiment, on doit maintenant promouvoir ce côté-là et on doit aussi développer des formations qui sont en adéquation avec les besoins des entreprises. Et je pense que là aussi, si nous renforçons le dialogue avec les entreprises, si nous sommes vraiment prêts à offrir des emplois à ces entreprises, elles viendront aussi s'installer dans notre canton. Et je pense que la fiscalité, pour ma part, moi j'étais vraiment une adepte de cette réforme, je pense vraiment que ça, c'est un atout pour notre canton et ça attirera des entreprises à l'avenir dans notre canton.
Alors Raymond Traube, attirer les entreprises, mais comment faire aussi pour que finalement les cadres de ces entreprises et les employés décident d'habiter dans le canton de Neuchâtel? Qu'est-ce qu'on peut leur offrir?
Oui, néanmoins, même si nous avons tous le même avis, là, sur un point, je l'avais dit dans mon préalable, c'est la réindustrialisation du canton, parce qu'on a beaucoup perdu. Et là, plusieurs idées ont déjà été mises parce qu'elles existent. Il y en a d'autres. En tant que médecin, il y a tout le médical et le biologique qui existe encore et qui peut être facilement renforcé, comme on l'a fait pour Microcity, qui était en collaboration avec les PFL. Là, on peut se mettre en collaboration avec la faculté de médecine. Il y a l'écologie. L'écologie, on a des possibilités aisées de faire des groupements, des parcs, comme à Yverdon, des parcs industriels, genre CleanTech. Donc là, il y a des choses qui vont forcément attirer les PME de pointe. Et je pense que si j'étais un directeur de PME de pointe, je mettrais dans un parc à collaborer pour diminuer les frais. Mais aussi
comment conserver ces cadres finalement dans le canton de Neuchâtel? Parce qu'on sait qu'il y a des entreprises qui s'installent, mais les cadres souvent vont habiter dans des cantons voisins. Qu'est-ce qu'on peut offrir aux cadres des entreprises et aux employés?
Oui, alors ça c'est un autre problème que l'industrialisation. Ça c'est la fuite des cerveaux. Ça c'est la question des impôts aussi des personnes physiques, qui était un bon départ, mais il faut peut-être l'accélérer.
François Conrad.
Oui, une remarque par rapport à ça, parce qu'on a joué le jeu, on joue le jeu en fait de la concurrence fiscale, qu'on a beaucoup critiqué par ailleurs. Il faut dire qu'avant les années 2000, on était à 18%, on a baissé à 10% en 1998, sauf erreur, et ensuite à 5%. Donc là, je pense quand même qu'il y a un réel problème, parce que c'est quelque chose qui, à un moment donné, il y aura des gagnants et des perdants à ce jeu-là. C'est un peu le jeu de l'avion, je pense.
Alain Ribaud.
Alors, sur la fiscalité, Raymond Traube a abordé un bon thème. On a, au fond, une bonne situation avec des entreprises qui s'installent. Et puis ensuite, ben, il s'agit de réaliser l'essai. Aujourd'hui, les cadres et la plupart des sociétés implantées à Neuchâtel, je pense à Celgen, Metalor et d'autres, ont leurs cadres qui ne sont pas installés dans le canton de Neuchâtel. Il faut que ces gens viennent payer des impôts chez nous. Il faut que ça profite aussi à toute la région. Et à cet égard, la révision de la loi fiscale pour les personnes physiques ne touche pas véritablement cette catégorie. C'est une lacune et c'est au fond aussi un domaine où il faudrait reprendre les choses.
Alors, Alain Ribaud, hein, on a parlé comment attirer des entreprises dans le canton, mais comment on peut faire l'État pour éviter que des entreprises ferment et s'en aillent, par exemple, comme c'était le cas hein, lors de la précédente législature avec Woomar ou Energizer?
Alors, quand on ne peut pas aller contre les lois du marché, quand une entreprise ne produit plus ce qui correspond, il y a des situations où c'est difficile. C'est difficile aussi quand les sièges sont très loin, quand les gens ne sont pas concernés par les régions dans lesquelles on se trouve. Et c'est pour ça que les petites structures sont précieuses, et c'est pour ça que le contact avec les directeurs sont précieux. Mais vous n'empêcherez pas des grosses entreprises dirigées par les États-Unis, tout d'un coup, d'avoir l'idée de fermer une partie à Neuchâtel plutôt qu'ailleurs. C'est quelque chose qui va continuer d'exister, il faut le savoir, il faut se battre et c'est en tout cas déjà là une des clés.
Mais ça montre aussi qu'il n'y a pas que la fiscalité qui doit être attractive dans notre canton, mais il y a aussi tout ce qu'il y a autour. On doit amener un programme culturel intéressant qui vraiment font envie aux gens de rester dans notre canton pour autre chose que seulement la fiscalité, mais par exemple aussi des écoles performantes, des formations performantes. Donc c'est tout ça qui fera que les cadres des entreprises resteront dans notre canton.
Raymond Troupe, je vois acquiescer.
Oui, c'est l'école internationale ou bien d'autres écoles de tourisme aussi auxquelles on peut penser, et puis le fait qu'il y ait dans un parc l'eau, l'électricité, les chemins, etc. Mais cela dit, il y a une chose qui m'étonne, parce que moi je parlais des PME de pointe, mais des PME, pas des grosses entreprises, c'est qu'à cet égard-là, personne d'entre nous n'a encore parlé du Transrun. C'est évident que le Transrun va amener une attractivité immense. Et excusez-moi, par rapport au débat du Grand Conseil qu'on a eu au Hall, rapidement, si on est d'accord dessus en toute collégialité.
Alors, c'est le moment de faire une petite pause dans ce débat. On reprendra dans quelques minutes.
Spéciale élection.
Retour à l'auberge du Chasseur à Fenin où se déroule le premier débat de RTN en vue de l'élection au Conseil d'État neuchâtelois. Le taux de chômage atteint 4,7% dans le canton de Neuchâtel. C'est le taux le plus élevé de Suisse avec celui du canton de Vaud. Alors comment faire diminuer le chômage, François Conrad?
Alors c'est une question certainement un peu piège, mais ce qu'on peut constater, c'est que les entreprises se portent bien. Alors, si on voit les chiffres de l'année 2012, il y a eu beaucoup plus de rentrées fiscales, donc ça montre bien qu'elles se portent bien pour l'instant. Et ce qu'on peut regretter, c'est justement ce fameux taux où on est les premiers, malheureusement, de ce point de vue-là. Ce que je pense, c'est qu'il y a un problème certainement de formation. Il s'agit bien de voir quels sont les besoins précis des entreprises qui s'installent ou qui ont besoin de personnel. Donc ça, c'est un souci qu'on doit avoir. Mais on peut aussi se poser la question, peut-être, de même ces entreprises, dans quelle mesure elles-mêmes, elles forment des gens, elles forment des apprentis. Parce que c'est peut-être aussi un problème, c'est qu'on manque de places d'apprentissage qu'on dit duales. Et là aussi, c'est important que ces entreprises-là développent des formations en adéquation avec leurs besoins.
Raymond Traube, davantage d'apprentissage, selon vous aussi?
Je suis tout à fait d'accord. En fait, il y a deux problèmes dans la question. Il y a la question de la réinsertion des chômeurs, il y a la question de l'insertion des jeunes. Et je pense qu'on ne peut pas parler... Si on veut d'abord parler de la question de la réinsertion, il y a peut-être quand même des progrès à faire. Il y a peut-être des passerelles à remettre mieux entre l'ORP, le chômage, le COSP, pour leur donner aux chômeurs une vraie formation, les inciter, je n'ose pas dire de quelle manière, non seulement à la faire, mais à l'accepter ensuite, et puis aussi de prévoir une formation continue, puisqu'il y a des changements fréquents, comme tout le monde le sait. Et ça, c'est aussi la tâche des HEE, des écoles professionnelles, je parle de la réinsertion, et encore une fois de l'OCOSP. L'OCOSP doit rajeunir, il a déjà maintenant à peu près 50 ans.
Monica Marefti, pour vous, ça passe aussi par la formation?
Alors évidemment, ça passe par la formation. Je crois en tout premier, il faut créer des plateformes d'échange avec les entreprises. C'est vraiment important que nous puissions mettre en adéquation les formations avec les besoins des entreprises. C'est une des premières mesures à prendre dans ces 4 ans. L'autre côté, effectivement, de développer la formation, notamment la formation duale. Je pense que là, on a une culture qui est très différente avec la Suisse allemande. Hein. La Suisse allemande a vraiment renforcé massivement la formation duale. C'est dans leur culture. Et je pense, effectivement, que dans notre région, nous devons mettre maintenant l'accent sur cette formation-là. Nous avons vu qu'en 2012, il y a notamment à peu près 200 places qui ont été créées en formation duale avec les entreprises, mais pour ça, il faut se parler, il faut se mettre autour d'une table et il faut vraiment maintenant être en adéquation avec les besoins des entreprises. Et c'est aussi comme ça qu'on diminuera le chômage des jeunes, parce qu'il ne faut pas oublier qu'à peu près 50% des jeunes qui sont au chômage ou à l'aide sociale n'ont pas une formation ni finie ni commencée. Donc c'est vraiment là-dessus que nous devons mettre l'accent.
Alors Ribaud.
Bon, difficile d'être original quand on passe en quatrième sur des sujets qui n'ont pas l'air de séparer beaucoup les gens, puisque même mon voisin de gauche, que dis-je, d'extrême gauche, a exactement les propos que j'aurais pu tenir en introduction. J'ajouterais simplement ceci. Les conditions cadres sont importantes, les conditions cadres pour les entreprises, on en a parlé tout à l'heure, la fiscalité, personne physique, personne morale, l'école internationale, la mobilité dans le canton, voilà des conditions cadres indispensables pour que les entreprises créent des emplois. Et puis, peut-être un élément qui n'a pas été dit et que je peux rajouter, c'est la formation, non seulement pour les personnes au chômage, les personnes à l'aide sociale, mais elle est aussi pour les personnes en emploi. C'est terminé aujourd'hui la carrière qui commence à l'âge de 20 ans, qui finit à 65, dans la même entreprise, au même poste. Ne serait-ce déjà que parce que les professions deviennent de plus en plus spécialisées, quels que soient les domaines et quels que soient les niveaux de formation, on a des formations de plus en plus spécialisées qui font que quand on perd son travail, eh bien on risque de ne plus avoir la formation de base, de ne plus avoir la formation adéquate pour une autre fonction. Et donc je pense qu'on néglige trop aujourd'hui la formation continue dans tous les domaines et qu'on devrait inviter les entreprises davantage à former leurs gens pour un espèce de parachute en cas de problème à un moment donné.
Raymond Trouve.
Oui, juste dire qu'on a déjà des pistes, on a déjà des solutions. Par exemple, on peut donner des incitations aux PME pour garder leurs apprentis. On peut aussi, comme pour le projet LIFT qui existe dans des cantons très voisins, mise en place d'ailleurs par des socialistes, permettre aux jeunes qui vont être peut-être en difficulté d'insertion de commencer à faire 2 à 4 heures par semaine dans des petites entreprises. Et aussi tout ce qui peut être fait comme incitation encore plus importante dans les très petites entreprises qui ne peuvent pas prendre sur elles toute la charge de former si l'État n'y participe pas un peu. Là, je deviens un peu socialiste.
Alors, vous avez évoqué développer la formation duale, les apprentissages, mais est-ce que ça passe aussi par exemple, restreindre l'accès à certaines filières pour éviter qu'il y ait trop d'élèves qui partent vers les hautes écoles, par exemple, Monica Merefti?
Ah, mais je pense qu'il faut laisser les gens se former, surtout dans les autres écoles. Hein, mais je crois qu'on ne doit pas avoir que des formations dans les autres écoles. On doit justement aussi valoriser les CFC. Si vous prenez un domaine que je connais relativement bien, c'est le domaine de la santé, par exemple. Je crois qu'il y a vraiment du travail pour tous les niveaux. Et nous devons valoriser notamment les CFC également, parce qu'une formation HES peut aussi passer par un CFC.
Est-ce que valoriser, ça suffit, ou est-ce qu'il faudrait aussi limiter finalement certaines formations?
Il ne faut jamais limiter la formation. Plus les gens se forment, mieux l'économie se porte et mieux on investit finalement dans le savoir-faire de notre canton. Vraiment, là, je ne mettrai pas de barrière du tout, mais il faut aussi valoriser les gens qui ont les moyens intellectuels pour faire une formation peut-être un peu moins poussée, mais les valoriser et vraiment reconnaître aussi ces formations-là. Je crois que nous avons un effort particulier à faire aussi pour les gens qui sont plus fragilisés dans notre société, et c'est par là passent aussi les investissements de notre canton.
Alain Ribaud, valoriser certaines formations, comment faire ça?
Oui, valoriser. La meilleure formation, c'est celle qui motive, celle qui nous transporte. C'est difficile de fixer des quotas puis de dire il nous faut tant de personnes à ces fonctions et donc il n'y a pas d'autre possibilité. Par contre, il faut orienter, ça passe aussi par la valorisation. Mais vous savez, si on prend un exemple, on sait qu'il n'y a que 5 places de conseiller d'État, pourtant il y en a 16 qui se battent pour y aller.
François Conrad, vous pensez aussi qu'il faut valoriser, mais pas forcément limiter?
Alors oui, moi j'ai une image qui m'a frappé, c'est qu'il y a peut-être une année, j'ai visité le CPMB à Colombier, où maintenant il y a des investissements qui vont se faire pour se remettre en état, et il était vraiment dans un état très vétuste. Moi-même, il y a une trentaine d'années, fait un apprentissage là-bas, Et je crois que rien n'avait changé, si ce n'est l'âge d'une trentaine d'années en plus. Mais ça veut dire que si on veut que aussi des parents qui accompagnent des enfants pour voir les choses qui peuvent se faire dans le domaine de la formation duale, il faut que les lieux, on voit vraiment qu'on y tient et puis qu'on a envie d'investir pour ces formations-là. Donc c'est toute une série d'éléments de ce genre-là aussi.
Raymond Traube, on a parlé aussi de formation continue. Pour vous, ça c'est quelque chose qui devrait être à la portée de tout le monde?
Oui, alors ça c'est la tâche effectivement des écoles, des HES et autres, de continuer à former au fur et à mesure. Cela dit, il y a aussi une responsabilité de l'État sur l'université, vous le savez bien. Or, il y a, puisqu'on essaie d'avoir des pôles de compétences à Neuchâtel, il nous faut créer des pôles de compétences en écologie aussi, développer ces pôles de compétences en mécanique. Pourquoi est-ce que Bobs marche à Lausanne et qu'on n'a rien, alors qu'on a quand même une grande habitude industrielle dans le canton? Et puis, alors un petit mot qui ne va pas non plus me faire élire, sauf peut-être par les parents, quand je parle des jeunes, on vous avait parlé de motivation. C'est vrai. Et je suis bien d'accord avec mon copain de gauche, d'extrême gauche, comme dit M. Ribot. C'est bien en visitant très tôt et en apprenant et en montrant comment c'est aux jeunes ce qui peut les intéresser qu'on peut y arriver. Mais c'est aussi, et c'est là où je vais faire un clash, en les sortant du virus des consoles. Parce que ce virus, il a un nom, c'est la paresse.
Alors, on va s'intéresser... Monica Maravti, vous voulez répondre?
Ah oui, sur la formation continue, je crois clairement que ça, c'est vraiment pas une tâche des HES. Ça, c'est véritablement une tâche des entreprises. Et nous devons tout faire pour sensibiliser les entreprises par rapport à la formation continue. Parce que c'est comme ça que nous maintenons, Alain Ribot l'a dit tout à l'heure, hein, que nous maintenons les employés de ce canton à un certain niveau et que nous pouvons créer des spécialistes dans des domaines très pointus. C'est par la formation continue. Continue. Puis ce souci-là, c'est vraiment les entreprises qui doivent le porter.
Alors, on va peut-être passer à un autre thème, hein, celui de l'aide sociale. C'est aussi quelque chose qui coûte très cher au canton de Neuchâtel et qui va en augmentation ces dernières années, hein, 83 millions pour 2012. Alors, le canton de Neuchâtel, c'est celui qui compte le plus de personnes à l'aide sociale avec 6,7% de la population qui bénéficie d'un soutien. Comment faire pour diminuer ce nombre, Alain Ribot?
Bah d'abord, ras-le-bol d'être toujours en tête dans les mauvais classements. Hein. On en a parlé avec le chômage, encore pour l'aide sociale. Voilà, si c'était simple, je pense que ça aurait déjà été fait. C'est vrai qu'on voit une augmentation continue. Je pense que cette augmentation continue n'est pas le reflet de la précarité, ou du moins pas le strict reflet de la précarité. Je pense qu'il y a une espèce de, entre guillemets, contagion. On a pris un petit peu l'habitude. Au fond, auparavant, c'était les proches qui aidaient. Et de moins en moins, les proches sont d'accord d'aider, dans la mesure où, de toute façon, l'État vient en aide. Et je pense qu'il y a là une petite contagion. Maintenant, évidemment, ce à quoi il faut pousser, parce que le principe est incontestable, l'aide sociale, on ne laisse pas les gens sur le côté du chemin. Mais c'est évidemment de pousser à la réinsertion. J'imagine, mais alors évidemment à creuser, parce que ça ne l'est encore pas, puis ça va peut-être faire l'effet aussi, on a parlé de clash tout à l'heure, ce n'est pas tout à fait ça, mais je crois savoir que dans certains cantons, eh bien, on est très restrictif par rapport à l'aide sociale pour les moins de 25 ans, parce qu'au fond, il y a une habitude qui se prend à 18 ans, je vais prendre mon studio, puis tant pis si je n'ai pas de travail, c'est de toute façon l'État qui payera. Et si on s'installe déjà à 18 ans dans un tel état d'esprit, eh bien bonjour pour la suite, ça sera difficile de récupérer la personne et de la mettre sur le chemin du travail.
François Conrad, une contagion, l'aide sociale?
Non, je pense que c'est aussi en lien avec une situation que l'on connaît. On avait aussi que la loi sur le chômage qui a été acceptée a eu des effets par rapport à l'aide sociale. Et je pense que par rapport à ce qui vient d'être dit, il y a des éléments importants à dire aussi. C'est qu'un jeune qui a 18 ans dit « voilà, je vais aller à l'aide sociale » n'aura pas un appartement. On va lui dire « non, vous pouvez vivre chez vos parents, il n'y a pas question de que vous ayez un studio ou un appartement ». D'autre part, jusqu'à 30 ans, un jeune qui ne fait rien, il aura un minimum qui sera réduit. Donc il faudra vraiment qu'il s'engage à quelque chose pour avoir une aide plus soutenue. Donc moi je crois que ce qui est fondamental, c'est tous les efforts qu'on peut faire pour coacher. Ça se fait maintenant plus dans le cadre du service de l'emploi, d'avoir un système de coaching plus poussé. Et tout doit être mis en œuvre par rapport à ça. Mais il faut bien se rendre compte aussi que, comme c'est déjà dur pour les gens au chômage de trouver un emploi, ça l'est d'autant plus pour les personnes qui sont à l'aide sociale. Mais en tout cas, pour ce qui est des jeunes en particulier, on doit fournir un effort considérable.
Donc pour vous, la solution, c'est un coaching individuel?
Absolument, oui.
Et d'autres mesures encore? On parle de programmes de réinsertion, de prestations en amont.
L'autre mesure, c'est développer au maximum, inciter au maximum les entreprises à développer des places d'apprentissage duales, que des gens puissent trouver des places de formation.
Monica Maravti?
Moi, je pense qu'on doit vraiment renforcer le travail interinstitutionnel entre les différents services. C'est vraiment primordial. Le service de l'emploi doit travailler avec le service d'aide sociale, avec l'AI, avec la formation professionnelle. Ça me semble vraiment être incontournable pour les quatre prochaines années à venir. C'est vraiment ça qu'on doit renforcer. Et nous devons prendre en charge les gens d'une manière individuelle. Je partage tout à fait l'idée du coaching. On l'a mis en place pour les jeunes, pour la réinsertion des jeunes, et on a vu que ça avait un certain succès. D'ailleurs, ça a débouché sur un office de la réinsertion, notamment qui est intégré dans le service de la formation. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui est primordial à l'avenir parce que c'est un investissement. Pour moi, c'est clairement un investissement. La formation des jeunes est un investissement pour l'avenir. Et effectivement, nous ne devons pas laisser les gens s'installer à l'aide sociale. L'aide sociale doit venir en aide si vraiment il n'y a pas d'autres mesures qui sont possibles, mais véritablement travailler sur la formation et la réinsertion des jeunes.
Alors là, vous parlez déjà de réinsertion des jeunes. Est-ce qu'il ne faudrait pas parler d'abord d'une insertion des jeunes, éviter qu'ils tombent à l'aide sociale?
Alors évidemment, mais le problème, c'est que vous disiez tout à l'heure, il y a des jeunes qui sont à l'aide sociale, mais ceux-là, il faut les sortir au plus vite. Moi, je suis tout à fait d'accord avec ça. Je crois qu'on ne doit pas laisser les gens s'installer à l'aide sociale, mais véritablement les accompagner pour les sortir, pour les valoriser et mettre en place aussi des bourses de formation. La grande problématique est ce fameux effet de seuil dont on en parle tout le temps. C'est que les gens, quand ils sortent de l'aide sociale pour aller en formation, finalement, ils auront un revenu disponible qui est inférieur que s'ils sont à l'aide sociale. Et c'est véritablement là qu'il y a un problème. Donc là, on doit travailler aussi sur des aides pour les accompagner dans le vécu de tous les jours, finalement.
Raymond Traube.
Je suis ravi d'entendre Madame Monique Mérifti, parce que même moi qui suis au centre, je n'osais pas parler pour un sujet aussi délicat, qui est l'aide sociale, d'une position, en fond, de droite. Que Mme Mérifti a pratiquement prise, parce qu'il s'agit effectivement, quand on sera au gouvernement, de scanner tout ce qui se fait, de scanner les interservices, les doublons, et de faire du transversal notamment. C'est-à-dire ce qu'il nous faudra faire, et c'est difficile, c'est une gestion pas plus rigoureuse, évidemment, mais plus courageuse. Ça veut dire quoi? Ça veut dire dépister aussi, et je suis désolé, là aussi, c'est très délicat pour moi de le dire en tant que médecin praticien. Mais il y a, et mes collègues qui ne sont pas médecins, mais qui sont à l'État le savent aussi, il y a des personnes qui profitent un petit peu quand même de cette aide sociale. Pas seulement ceux qui viennent de Genève et de Lausanne, et qui diminuent un petit peu notre bilan dépenses publiques, mais aussi parmi les patients que j'ai. Comment leur dire non, maintenant quand même, va bosser.
Alors, Alain Ribaud, le Parti libéral radical propose notamment d'exiger des contre-prestations de la part des personnes qui touchent l'aide sociale. Est-ce que vous pensez que ça, c'est une solution pour dissuader les gens qui voudraient profiter de l'aide sociale, par exemple?
Il ne s'agit pas de dissuader, mais simplement de ne pas se complaire dans une situation. C'est une espèce de... Il faut motiver les gens, car au fond, au bout d'un moment, il y a le risque qu'on renonce à se battre. Il faut que les gens continuent à se battre. Chacun a droit à un emploi, mais il faut se battre pour y arriver. Et puis alors l'autre chose, au fond, on en parle peu dans ce débat, il faut quand même le dire, on attend aussi des services sociaux qui dénoncent les abus, ça se fait de manière assez régulière, mais les abus doivent être dénoncés à la justice, et puis on doit aussi s'attendre à ce que les services sociaux eux-mêmes s'obligent à une certaine rigueur. Et je me souviens quand j'étais juge à la Chaux-de-Fonds de quelques exemples qui m'avaient quand même choqué, je vous en cite un, parce que c'est pas les gens eux-mêmes, mais c'est les services eux-mêmes qui poussaient à l'excès, c'était un couple qui était souvent en pétard, alors ils avaient encore droit à chacun leur appartement pour que, quand il y avait des grandes tensions, ils puissent chacun se ressourcer dans leur logement. Eh bien, au fond, on doit quand même faire un petit peu attention, ne serait-ce que pour l'exemple donné à ceux qui travaillent et qui doivent payer leur logement.
Monica Mérifti.
Mais je crois que l'abus, on est tout à fait d'accord, l'abus doit être traqué, moi je suis d'accord avec ça, mais il ne faut quand même pas croire que c'est la plupart des gens qui sont à l'aide sociale qui sont des gens qui abusent de l'aide sociale. Moi je pense que véritablement on doit valoriser le travail, c'est le travail qu'on doit valoriser et on doit avoir un revenu disponible plus grand si on travaille que si on est à l'aide sociale. Puis c'est par là que ça passe.
François Conrad.
Je pense qu'il y a un autre problème aussi, c'est qu'un assistant social peut avoir jusqu'à 120 dossiers. Et là se pose aussi le problème par rapport au suivi. Quand on a 120 dossiers, eh bien, il peut arriver qu'il y ait des dossiers qui passent entre les mailles du filet. Donc il y a peut-être, mais c'est tout à un coût. Donc si on disait, voilà, c'est 80 dossiers pour pouvoir mieux suivre l'ensemble des dossiers, ça a aussi un coût, bien sûr.
Alors, Raymond Traube, hein, vous, le PDC, vous militez aussi pour une aide supplémentaire aux familles. Est-ce que vous seriez pour des prestations complémentaires pour les familles à bas revenus, par exemple, pour les éviter de tomber à l'aide sociale ?
C'est pas du tout dans ce sens-là que nous parlons, d'après ce que j'ai compris. J'ai quelques amis du PDC dans la salle. Mais c'est pour défiscaliser. Et on est toujours dans ce sens-là, ce que les Suisses-Allemands n'ont pas accepté récemment, pourtant c'était du bon sens. Et on peut continuer, on peut absolument continuer dans ce sens-là, même pour les questions qu'on n'a pas abordées aujourd'hui, les homes dont Mme Monique Mereffti est vraiment, insiste beaucoup là-dessus, et moi aussi je n'ai pas pu le faire, ou les crèches, je pense qu'il y a toutes des choses où on peut inciter les personnes, pas seulement les jeunes, mais les pères ou les mères qui veulent rester à la maison, par exemple. Pourquoi est-ce qu'on leur rétrocéderait pas 30% par enfant sur la fiscalité ? Il y a des pistes, mettons-nous à table et allons-y.
Monica Mereffti, les prestations complémentaires famille, ça c'est quand même un argument, une proposition socialiste.
Oui, bien sûr, je les défends d'ailleurs. Mais il me semble qu'il y a plusieurs pistes que nous devons explorer, notamment aussi les gens qui sont à l'aide sociale, mais qui travaillent à 100%. Il y a à peu près 30% des gens qui sont à l'aide sociale qui sont des travailleurs pauvres. Et c'est à ça qu'on doit s'attaquer en tout premier. Ça veut dire qu'on passe par des salaires décents. Ça veut aussi dire, vu qu'on a un taux de divorce très élevé dans le canton, on a forcément des familles monoparentales en grand nombre. Ça passe aussi par des crèches qui sont à disposition pour pouvoir permettre le travail des femmes. Et là, qui mieux qu'une femme pourrait faire ça au niveau du gouvernement ? Donc, clairement, nous devons développer des mesures qui sont mises en place pour pouvoir permettre aux familles de travailler et surtout aux femmes de pouvoir travailler à 100%.
Alain Ribaud, le mot de la fin, peut-être pour vous, c'est une solution d'aider davantage les familles ?
Alors les solutions, comme je l'ai dit tout à l'heure, si elles étaient évidentes, elles seraient déjà appliquées. On n'aurait plus d'aide sociale parce qu'il n'y aurait plus de besoin dans ce domaine-là. Il faut toujours être conscient qu'on a dans notre société un équilibre à atteindre. Il est très difficile à atteindre. Puis cet équilibre, il est complètement instable. Il est de salaire peut-être trop bas à certains moments, mais ça découle de la loi de l'offre et la demande.
Si on les augmente artificiellement, pour un salaire minimum,
si on les augmente artificiellement, si vous me laissiez finir la phrase, eh bien vous verriez que je suis pas de votre avis. Eh bien on crée d'autres difficultés parce qu'on rompt l'équilibre. On croit du côté de la gauche qu'il suffit d'augmenter les prestations, de donner, etc. Mais non, c'est beaucoup plus subtil que ça. Et en aide sociale, peut-être plus encore que dans d'autres domaines, la réponse sera une réponse extrêmement subtile.
Eh bien, c'est l'heure de clore ce débat. Monica Mereffti, François Conrad, Alain Ribaud, Raymond Traube, merci d'avoir participé. Merci aussi à l'auberge du chasseur à Fena de nous avoir accueillis. Merci à Robin en studio, à Walter, à la technique et à Sarah Massy pour les micros dans la salle. Vous pouvez entendre l'intégralité de ce débat dès demain sur notre site internet rtn.ch et des vidéos sur les défis qui attendent les futurs élus vont être mises en ligne sur bnj.tv. On vous rappelle que les élections au Conseil d'État et au Grand Conseil se déroulent le 14 avril. 3 autres débats sont organisés cette semaine par RTN avec les 12 autres candidats au Conseil d'État. Prochain rendez-vous demain à 19h au Centre sportif de Couvet avec Thierry Grosjean, Andréa Surte, Patrick Herman et Jean-Nat Caracache. Très bonne soirée à tous. Élections.